stop you. Are you racing or watching?
La dispute littérature. Arnaud Laporte.
Autour de moi ce soir, Sonia Deschamps, Grégoire Leménager, Florent Georgesco pour parler ensemble de L'imitation de Bartleby de Julien Battesti chez Gallimard, La fabrique du papier tumouche d'Andrzej Bart chez Noir sur Blanc, Andrew est plus beau que toi d'Arnaud Catherine and the Anonymous Project chez Flammarion et un coup de cœur de Florent Georgesco pour le journal intégral de Julien Green chez Robert Laffont. Difficile ce soir d'établir des liens entre les livres dont nous allons parler. Donc j'ai tiré au sort l'ordre dans lequel nous allions en parler. Vous pouvez me croire ou pas. Ça ne regarde que vous. On va ouvrir cette dispute avec L'imitation de Bartleby. C'est un premier roman de Julien Battesti, publié chez Gallimard. Le mieux pour commencer est d'écouter le début de ce livre lu par Romain de Becdelièvre.
Mes gestes, à présent, je pouvais les compter. Depuis presque 2 mois, je passais toutes mes journées couchées sur le sol de ma chambre. Je restais là, du matin au soir, étendu à plat, les bras le long du corps, près de la fenêtre donnant sur la rue, d'où me parvenaient à chaque instant des voix, des aboiements, des bruits de moteur. Et tous ces sons, je les percevais maintenant, comme s'ils étaient séparés de leur source et ne formaient plus dans l'air qu'un seul bruissement irréel. Celui du monde qui continuait sans moi. Je vivais seul, sur le dos, cette austère thérapeutique étant l'unique moyen d'échapper aux médicaments. À cette époque encore, on pouvait parfois lire dans les journaux, après les pages consacrées aux derniers attentats suicides, un titre accusateur où l'adjectif « pharmaceutique » se trouvait accolé au mot évangélique de « scandale ». Aussi, pensant que l'immobilité me serait salutaire, je m'étais efforcé de réduire progressivement le nombre de mes mouvements, ne me levant plus qu'en cas de nécessité, si bien qu'à la fin de la 3e semaine, je ne bougeais presque plus. Cependant, le premier jour, en m'allongeant par terre afin de commencer mon traitement, je n'avais pas imaginé que le simple fait de placer mon corps de façon prolongée dans cette situation allait donner une sorte d'autonomie inhumaine à ma vie mentale et à ma mémoire. Quelque chose s'était rompu en moi, et sans doute cette rupture répondait-elle à la manière dont je m'étais coupé du monde. J'avais tout mon temps pour l'observer, car rien désormais ne venait me distraire de mes cogitations, et des images de ma vie passée surgissaient dans mon esprit, en s'accrochant les unes aux autres, par association d'idées.
C'est le début de L'imitation de Bartleby, on peut dire que ça ne nous dit pas où ce roman va aller, mais ça, on va en parler ensemble. Et avant cela, un premier tour de table rapide pour recueillir un premier sentiment sur ce livre de Julien Battesti, Grégoire Leménager.
Moi, je préférerais ne pas, évidemment, mais ça m'a donné très envie de relire Emmanuel Ville, ce qui est déjà une bonne raison de parler de ce petit livre.
Florent Georgesco.
C'est toujours embarrassant et un peu gênant de dire du mal d'un premier roman, mais je dois dire que la transformation progressive par beaucoup de gens de Bartleby en cliché commence à me taper un peu sur les nerfs.
Bon, Sonia Deschamps.
Apportons un peu de positif, je dirais une enquête littéraire stimulante.
Stimulante. Bon, alors a priori celui qui semble le plus heureux de cette lecture, alors c'est pour lire Melville, c'est encore une autre histoire, mais pourquoi vous avez proposé ce texte à notre sommaire, Grégoire.
Disons-le. Alors, j'ai proposé ce texte parce que...
Parce qu'il est court. Non.
Mais c'est une des raisons, je ne vous le cache pas, puisqu'à un moment, il était question de reparler de Sylvain Tesson, dont nous avons déjà abondamment parlé la semaine où il a reçu le prix Renaudot. Donc il a fallu le déprogrammer assez vite pour ne pas répéter. Et du coup, j'ai pensé à mes camarades et je me suis dit, je vais essayer de choisir un livre
beau.
Court.
Merci. Vous avez intérêt à être gentil, du coup, vous avez compris.
Il se trouve que par ailleurs, il était question, le titre l'indique, je n'étais pas allé très loin à ce moment-là, le titre indique, il est est question de Bartleby. Moi, ça m'amuse toujours, les variations sur ce thème, sur ce personnage, sur ce motif littéraire qui est devenu vraiment une sorte de figure mythologique sur laquelle on peut projeter toutes sortes de choses. Donc, ça m'amusait d'aller voir ce que ce garçon, Julien Battesti, dont je n'avais jamais entendu parler, disait de ça. Puis, par ailleurs, c'était un premier livre. Je me suis dit, c'est bien aussi de parler d'un premier livre. J'ai mis mon nez là-dedans. C'est vrai que c'est pas un livre très spectaculaire. C'est néanmoins assez intéressant, quoi. C'est-à-dire que ce type, il a un petit ton. Le personnage principal, donc il s'exprime à la première personne, on l'a entendu dans l'extrait. Bah, il se comporte un peu comme Bartleby dans la vie, c'est-à-dire qu'il a l'air assez neurasthénique, il a envie de ne rien faire, il oppose une forme de résistance au monde moderne, dans lequel il se sent particulièrement inadapté. Et puis, après, de fil en aiguille, il y a plein de choses qui sont emmêlées, plein de perles qui sont enfilées sur ce fil-là. Il va découvrir l'existence d'un endroit en Suisse où on pratique le suicide assisté. Là-dessus, il regarde un documentaire sur le suicide assisté. Il assiste aux dernières minutes de la vie d'une dame qui s'appelle Michelle Kos et qui explique que oui, elle est prête à mourir, etc. Il décrit tout ça. Tout ça est très glacé, assez sordide, enfin, ça donne un visage de la modernité qui est pas très glamour quand même. Et puis après, plusieurs semaines après, il découvre que cette Michelle Kos est une dame qui a traduit des livres, dont le livre de Melville qui s'appelle Bartleby le Scribe. Grande phrase de Bartleby, c'est « je préférerais ne pas ». C'est un personnage comme ça qui pratique l'immobilité, quoi, et qui est une tentation aussi pour nous tous, quoi. Opposer une forme de résistance à Arnaud Laporte, par exemple, quand il nous dit « dépêchez-vous, vous allez être en retard à l'émission », des choses comme ça. On pourrait dire comme
taisez-vous, faites
plus. Encore une légende qui vient de naître.
Voilà. Et en fait, c'est plutôt la face sombre de Bartleby. Il se rend compte que c'est cette femme, donc, elle a poussé la logique de Bartleby jusqu'à préférer ne plus vivre à un moment. Il s'interroge là-dessus. Ça reste assez énigmatique. Puis après, il continue à digresser, à réfléchir sur Bartleby. Enfin, voilà, je ne vais pas monopoliser le micro trop longtemps, mais je trouve ça assez original et intéressant. Je ne veux pas dire que c'est un très grand livre, ni que c'est une révélation fracassante, mais...
Une défense en demi-teinte. Hein. Voilà, si voilà. Vous préférez ne pas venir à la dispute, dites-le. Hein. Vers le ménager, nous en tirerons toutes les conséquences. On a entendu qu'il y avait un avis très opposé à celui-ci qui est déjà... Bon. Non, il n'est pas très opposé parce qu'il serait aussi en demi-teinte, ce qui n'est pas le cas. Ce n'est rarement exactement. Le cas chez Florent Georgescu.
Aussi, vous verrez tout à l'heure. Oui, alors sincèrement, ce garçon, Julien Battesti, n'est pas sans intelligence, il écrit plutôt bien, correct, disons. Donc c'est un peu embarrassant d'accabler quelqu'un qui publie un premier roman, sincèrement. Mais bon, puisqu'on est là pour dire la vérité,
exactement.
On va la dire, puisque c'est la règle. Écoutez, le problème c'est que tout ce que Grégoire a résumé, sont des éléments qui, au fond... Qui laissait, vous parliez de perles sur un fil. Le problème, c'est le fil, c'est qu'il veut trop le lisser, qu'il veut trop faire correspondre l'ensemble de ces éléments. Et tout cela passe par d'assez grossiers échos symboliques. On voit très bien. Alors, il fait, je ne sais plus si vous l'avez rappelé, il est censé être étudiant en théologie à l'Institut catholique. Ce dont il fait une description assez fausse d'ailleurs. J'ai moi-même été étudiant en théologie.
Vous n'êtes pas tous les étudiants en théologie.
Non, mais j'ai vu moi.
Oui, moi aussi.
Non, mais il fait.
Moi, j'étais pas étudiant, mais
il parle de ça comme d'une espèce de secte où il y a 5 personnes qui écoutent des textes abscons. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Il y a des centaines de gens qui étudient la théologie à la Cato de Paris. Bref, ça n'a aucune importance. Mais donc il est étudiant en théologie. Alors il a mal au dos, en gros, c'est ça.
Et il a 3 hernies discales.
Il vit allongé par terre pendant quelques mois dans une figure assez christique d'homme les bras en croix, si vous voulez. Et de là, il passe à la question du suicide assisté. Enfin, tout cela avance assez lourdement, de manière un peu brinque-ballante. C'est-à-dire qu'il est à la fois trop cohérent, il est cohérent sur le plan purement théorique et trop incohérent sur le plan dramaturgique, sur le plan de l'écriture du récit. C'est de la juxtaposition assez lente, assez soigneuse dans la conception et assez peu vivante dans la réalisation. Et puis encore une fois, tout cela aboutit en effet à la figure de Bartleby, enfin à pire que la figure de Bartleby, c'est-à-dire ce garçon, on pourrait admirer cette audace, mais prend 11 pages précisément à faire une paraphrase du livre de Melville.
C'est un peu étrange.
Sincèrement, disait qu'il avait, ça lui donnait envie de relire Bartleby. Il a bien raison,
oui,
mais enfin, il a d'autant plus raison qu'on vient de se taper 11 pages de paraphrase molle d'un immense écrivain. Donc ça, tout cela est un peu, disons, laisse un peu perplexe. Et en plus de tout, qu'est-ce que c'est que cette vision de Bartleby ? C'est pas grand-chose. Et au fond, il met dans cette figure, comme beaucoup de gens le font, c'est quand même devenu l'image de Bartleby. On la voit un peu partout. Tout le monde se réfère à Bartleby pour dire à peu près n'importe quoi. Et pour dire, en l'occurrence, ce qu'on voit dans tant de premiers romans où les gens parlent de leur difficulté d'être, de s'intégrer à la société, moderne ou pas, enfin en général, ils parlent de la solitude, toutes ces choses un peu éthérées. C'est pour ça que je parlais d'ailleurs de ce qu'il dit des études de théologie. C'est amusant, il en fait quelque chose qui est un pur besoin, qui répond à un pur besoin narratif chez lui. Il veut parler de désolation, il utilise ce pauvre vieux Bartleby qui a vraiment mieux à faire que raconter la désolation et la difficulté à vivre provisoire d'un jeune homme.
Sonia Deschamps, la troisième voie, la synthèse, la voie médiane, peut-être.
Je vous trouve très dur. En fait, puisque
vous avez encore rien vu.
Vous m'étonnez.
C'est presque.
C'est votre première dispute ensemble, je vous préviens.
J'ai jamais été aussi aimable
en fait,
pour
vous
un
disiez livre. Que
c'est vrai. C'est vrai.
Que vous pouviez être attiré par le titre et que finalement vous aviez été assez déçu du contenu. Moi, au tout début, en fait, j'ai vraiment eu peur pendant toutes les premières pages. Un étudiant en théologie coincé au sol et par-dessus ça la question de la fin de vie. Je me suis pas dit que j'allais passer un moment de lecture très folichon, ouais. Disons. Et puis assez rapidement, c'est... en fait, je me suis laissée prendre. Et à un moment, le narrateur cite Michel Kos, qui dit « Nous sommes les livres que nous avons lus ». Alors bien sûr, c'est une banalité de dire ça, mais j'en suis intimement persuadée que nous sommes les livres que nous avons lus. Et je trouve qu'il y a un côté assez vertigineux et fascinant là-dedans. Ça donne envie de soi-même chercher les mots, derrière les mots, derrière les actes, bien sûr. Ça paraît évident de le dire, mais je trouve que dans la façon dont il l'amène, il nous intègre vraiment à son processus. C'est stimulant, je le disais tout à l'heure, parce que il nous invite à prendre part à sa réflexion, se retrouve associé vraiment à tout son cheminement. Et j'ai aimé finalement l'état dans lequel l'auteur met le lecteur à l'affût des références, des correspondances dans son texte même, et qu'on les trouve toutes ces correspondances ou non, finalement ça importe peu, puisque c'est le jeu qui compte. Et c'est vraiment cet état de curiosité, d'attention aux moindres détails dans lequel il nous met, qui moi m'a beaucoup plu et m'a emporté. Je dois dire qu'effectivement, j'allais dire, on ne quitte plus le livre, on ne le lâche pas. En même temps, il fait 115 pages, donc ça aide également. Mais je trouve, voilà, je dirais pas que le livre est fondamentalement drôle, mais j'ai trouvé que le personnage, quelque part, l'était. J'ai trouvé qu'il y avait un côté absurde qui s'en dégageait, quand bien même tout ce qu'il nous raconte finalement se tient plutôt. Vraiment quelque chose d'un petit peu dérisoire. Il y a une ironie qu'on imagine être celle de l'auteur. Vous le disiez, c'est un premier roman, on le connaît assez mal. Du coup, en tout cas, moi, je ne connaissais pas du tout Julien Battesti. Et on a rapidement, en fait, on se retrouve à confondre narrateur et auteur. Et je trouve que la position du narrateur est assez intéressante dans son rapport justement à l'écriture, comment l'idée de narrer sa vie lui cause une lassitude, dit-il, comparable à celle qui s'empare de certains chameaux à l'entrée du désert, sur la façon qu'il avait de réaliser que finalement tous les grands livres sur le rien, les écrivains, même les meilleurs, ne parviennent jamais tout à fait à les écrire et qu'ils vont chercher dans les journaux, sur un vitrail, une histoire qui leur permettra de donner le change. Voilà, je trouve que vous êtes un petit peu dur parce que je trouve que oui, il embarque vraiment le lecteur et il l'associe, ce dont je n'avais pas du tout l'impression au premier abord.
Il ne l'est qu'un tout petit peu dur, effectivement.
Non, mais c'est bien, vous m'avez
confirmé.
Vous m'avez rappelé deux ou trois points que j'avais oubliés.
Mais tout à l'heure, je ne suis pas sûr qu'on s'y attarde plus que cela, mais tout à l'heure, vous disiez, Grégoire Leménager, sordide, hein, quand il regarde la vidéo. Moi, il me semble qu'il veut quand même dire absolument l'inverse dans ce suicide assisté. Il y voit, et moi, j'y vois à travers ses yeux une forme de dignité, au contraire. Et quand même, la théorie que Julien Battesti échafaude et essaye de nous faire entendre ou comprendre sur ces 100 et quelques pages, c'est que le geste de Michel Kos, qu'elle appelle « dénaître », l'inverse de naître. Elle choisit le jour de son anniversaire pour ce suicide assisté. C'est une équivalence, selon lui, avec le geste de Marthe Labine, dont elle était donc la traductrice. Je ne suis pas sûr que j'adhère tout à fait à cette théorie, mais en tout cas, il me semble que c'est quand même l'objet, le sujet, la raison d'être de ce livre. Alors, ce qui du coup est compliqué, si on n'adhère pas à la théorie, on peut être, comme moi, plutôt déçu par ce chemin, mais c'est quand même, pour moi, de cela qu'il s'agit.
Oui, mais je n'ai pas le sentiment qu'il fasse l'apologie du suicide assisté. Je trouve que justement lui il a une espèce de position de retrait.
Non, mais vous disiez sordide. Voilà,
je pense. Oui, que parce que ce qu'il décrit est une réalité.
C'est le contexte.
Une approche très
terrible.
Une approche très clinique, très déshumanisée, très froide, très glacée. Enfin bon, il nous décrit ça, me semble-t-il, hein, de manière très clinique. Et par ailleurs, bon, au passage, il y a quand même quelque chose qu'on n'a pas dit. Moi, il y a la découverte de ce personnage de Michel Kos, dont j'ignorais tout.
Ouais, qui était aussi, j'étais renseigné sur elle.
Théoricienne du féminisme, mais plus que radical, qui a écrit donc un livre qui s'appelle Contre le sexe. Donc elle aimait beaucoup ce genre de néologisme très à la mode dans les années 70. Et je trouve que la manière dont il raconte son suicide, d'une certaine façon, ça donne une lecture de Bartleby qui, pour une fois, n'est pas politique, n'est plutôt existentielle, et qui nous dit, en gros, qui attire notre attention sur le côté, parce que Bartleby, de Melville, il y a aussi quelque chose de drôle, tout est très ambivalent, et là il le tire du côté du comportement suicidaire de Bartleby, et il y a un jeu de miroir qui se fait entre Michel Kos et le personnage de Melville qui n'est pas inintéressant.
Autant convaincu, ce que je vous le disais.
Oui, je crois pas que ce rapprochement, je suis d'accord avec vous, Arnaud, pour dire que s'il y a une thèse ou un foyer dans ce livre, c'est celui-là, c'est cette correspondance entre Michel Kos et Bartleby. En effet, je trouve que ça n'apporte pas grand-chose. Je suis d'accord avec vous aussi, tous vous deux, pour dire que la découverte, parce que moi non plus, je ne la connais pas, de Michel Kos à travers ça, est très intéressante. Je pense aussi que ça mériterait mieux.
On se demande même si c'est pas un personnage de fiction à un moment.
Parce
on a tous été vérifiés.
Et on a tous vérifié dans le même esprit, en effet.
Hallucinant.
Je suis d'accord.
Oui, ce serait un autre auteur qu'on connaît, on se méfierait.
Mais par ailleurs, vous le disiez, le faudrait de l'humour quand même. Enfin, il y a tout est mis en place pour qu'il y ait une sorte de sens de l'absurde, en effet.
Il y est, enfin, il affleure, il est quand même...
Il n'est pas prédominant, c'est vrai.
Disons, il n'est pas hilarant.
Il n'est pas hilarant. Bon, on s'arrête là pour ce livre de Julien Battesti, c'est un premier roman, c'est L'imitation de Marthe Labine dans la collection L'Infini chez Gallimard. On s'arrête là parce que nous avons encore au programme Andrzej Barthes, Arnaud Catherine and the Anonymous Project, mais aussi Julien Green.
France Culture, La Dispute, Arnaud Laporte.
Suite de cette dispute avec La Fabrique de papier Tumouche d'Andrzej Barthes, publié aux éditions Noir sur Blanc dans une traduction d'Éric Vaux, traduction du polonais. Alors il y a des films de procès, il y a des livres aussi, mais celui-ci a ceci de particulier qu'il se situe dans un espace et un temps qu'on aurait du mal quand même à définir, puisque, il faut l'expliquer, l'auteur de ce texte, l'auteur de texte, pas le nom qu'il y a sur la couverture, mais peut-être que si, après tout, allez savoir, l'auteur du texte que nous lisons était chargé de faire un compte-rendu de procès. Mais c'est le procès de Chaim Rumkowski, qui était le président des autorités juives du ghetto de Lodz, c'est-à-dire chargé par les nazis d'organiser la vie des 100 000 juifs qui étaient enfermés. Et donc, à ce procès, vont défiler à la barre quantité de témoins vivants ou morts.
Il faisait déjà clair quand le train arriva là où il devait arriver. De jour, il avait moins belle allure. Privé de la lueur de la lune, il se laissait voir comme un convoi de marchandises, même pas de première propreté. Que faisait ce wagon salon entre des wagons d'aspect misérable? On doit même exclure toute erreur, parce que les cheminots ne se trompent pas à ce point. Restait la raison d'une nécessité supérieure, c'est-à-dire du besoin de transporter rapidement un dignitaire. Si le vieil homme était premier ministre, ou, mieux, ministre des Transports, son poste élevé expliquerait bien des choses. Mais alors pourquoi le train ne s'arrêtait-il pas dans une gare et n'était-il pas accueilli par des cheminots au garde-à-vous? Non seulement ce n'était pas une gare, ni même une halte secondaire, mais tout indiquait une sorte d'embranchement d'usine avec, ici et là, des entrepôts de briques rouges et des empilements de balles de laine, et surtout une forêt de cheminées qui semblait toucher le ciel. Si donc le train transportait de la laine de pays exotiques, ce n'était pas un ministre qui occupait le wagon salon, mais un industriel qui suivait ses affaires de par le monde et maintenant rentrait chez lui avec des proches dont il n'avait pas voulu se séparer. Le mécanicien de la locomotive connaissait bien son affaire et n'avait pas lésiné sur la vapeur tout au long de la nuit, heureusement car de gros nuages boursouflés arrivaient au loin, sûrement de la pluie, et tout le monde ou presque sait que la laine n'aime pas la pluie. Mais où étaient les ouvriers qui devaient décharger le précieux matériau ? Les ventres perpétuellement affamés des usines attendaient cette nourriture qu'ils rendraient ensuite sous forme de tissu si beau qu'il serait difficile de trouver femme capable d'y résister. Mais ce n'est pas le chargement du train et le silence de mort à l'accueil qui furent les plus étonnants. Passé quelques minutes, on vit non pas des balles de laine, mais des gens débouler des wagons de marchandises en nombre défiant les lois de la physique. Et bientôt cette première brèche dans l'ordre scientifique en ouvrit une autre, plus grande encore.
Voilà pour un extrait de La Fabrique de papier tumouche, lu ici par Boris Pinot. Ce n'était pas évident de choisir un extrait, et celui-ci permet peut-être d'entendre la façon qu'a André Schbart de nous balader, de nous promener, de nous donner des informations qui sont peut-être pas tout à fait nécessaires pour nous amener ailleurs et encore ailleurs. C'est vrai que c'est une lecture, non pas labyrinthique, mais en tout cas dans laquelle on ressort pas tout à fait indemne après y avoir plongé. Alors, premier sentiment, premier tour de table rapide sur ce livre, La Fabrique de papier tumouche, Florent Georgesco.
Disons que certains sens de l'absurde, ou une forme d'onirisme, mais qui a quelque chose de tendre, de plein de pitié en quelque sorte, peut être un moyen d'accès prodigieux à la tragédie, au tragique. Et je crois que c'est ce qui est réussi dans ce livre-là.
Sonia Deschamps.
Original, fou, grave, faut être en forme pour lire ce livre, je pense.
Grégoire Leménager.
Ben oui, le problème c'est ça, c'est que ce livre il parle d'un sujet tellement intéressant que moi je regrette vraiment de ne pas avoir toujours tout compris. Il y a quand même quelque chose de très très nébuleux dans sa construction.
Alors, après, vu la moue de Florent Georgesco, il va nous expliquer.
Non.
Pourquoi elle n'a rien de nébuleux.
Non, non. Vous expliquerez en quoi c'est nébuleuse.
C'est une nébuleuse.
Non mais si vous voulez...
Allons-y, c'est parti.
Pour commencer, il faut...
Vos 27 minutes habituelles commencent maintenant.
Je regarde l'horloge, parfait, merci Arnaud. Non, d'autant qu'il faut peut-être...
Générique fin, je m'en vais.
J'aimerais beaucoup commencer par parler de littérature, parce que Barthes est un écrivain absolument passionnant, d'une richesse infinie. Mais enfin, je pense qu'il est nécessaire de définir un tout petit peu ce dont il parle, parce que les enjeux politiques, historiques de ce livre sont au-delà de sa puissance littéraire extrêmement importants, et en tout cas ils doivent être bien compris pour entrer dans ce livre. C'est le cas de Chaim Rumkowski est emblématique depuis longtemps d'un des problèmes moraux en quelque sorte les plus complexes de l'histoire de la Shoah, qui est celui justement de ces Judenrat, de ces conseillers juifs et de leur chef. Anna Arendt, qui fait une apparition spectaculaire dans le livre, d'ailleurs, qui est vivante dans le livre, elle aussi, qui vient témoigner, a de fait écrit sur ses conseils juifs, et en particulier sur Chaim Rumkowski, pardon, qu'elle appelait Chaim Premier, parce qu'elle y voyait une figure de démesure, de quelqu'un qui était chargé, comme vous le disiez, d'organiser la vie, ce qu'il restait de vie dans un ghetto, pendant la guerre, et qui, faisant cela, ayant cette charge, se prenait d'une sorte de folie des grandeurs. Enfin, quand on lit Arendt, notamment dans Eichmann à Jérusalem, elle en fait le portrait d'une sorte d'arrogant. Elle raconte qu'il se faisait promener en calèche, que sa figure apparaissait sur la monnaie, etc. Et en même temps, ce que montre Barthes, par les moyens les plus complexes, si l'on veut, les plus oniriques, en effet, ce qu'il fait, c'est une sorte d'étude morale extrêmement fine de la complexité de cette question. Parce que la défense et l'accusation parlent à tour de rôle. C'est en effet un vrai procès. Et il y a sur ce qu'il pouvait y avoir de noblesse chez Jean Rumkowski, qui a par ailleurs très mauvaise réputation à bien des égards, qui a subi beaucoup d'accusations, mais quand il lui donne la parole et qu'il lui fait dire « Oui, mais comment vouliez-vous que je tente de sauver les gens qui étaient dans ce ghetto ?» ça prend un son de vérité. Il y a une cohérence et une force de son point de vue. Il explique qu'il a organisé presque militairement ce ghetto en vue de la production, en vue de la production économique, enfin de la fabrication, pour répondre à des besoins des Allemands, pour fournir les nazis, mais en espérant que ainsi il verrait l'utilité des 100 000 personnes présentes dans le ghetto et que donc il les préserverait. Au bout du compte, alors 204 000 juifs sont passés à travers entre 39 et 44 dans ce ghetto et il y aura 10 000 survivants. Donc il a échoué, évidemment. Mais pouvait-il savoir, et c'est ça que raconte ce livre, pouvait-il savoir qu'il était face à un système de destruction absolue, d'extermination totale, et que rien de ce qui est, de ce qui existe naturellement dans les rapports sociaux ne pouvait encore exister. Tout tourne autour de ça. Tout tourne autour, en fait, d'une société qui tente de vivre, parce qu'il n'y a rien d'autre à faire que de, quand on a la chance de la survie, de tenter de continuer à travailler, à produire des trucs, à gagner sa vie, avec tous les conflits que cela implique. Et il raconte ces conflits, parce que beaucoup de gens, dans le livre, de juifs du ghetto l'accusent d'avoir privilégié tel ou tel, d'avoir etc. Mais ce qui est passionnant, c'est de montrer toute une société qui continue son activité la plus naturelle possible dans un monde où d'avance, mais eux ne le savent pas, tout est perdu et rien ne mènera jamais à rien. Donc Chaim a peut-être été un homme absurde, peut-être été une sorte de fou dans une folie des grandeurs, mais que pouvait-il faire d'autre que de tenter de faire vivre dans une zone qui était déjà une zone de mise à mort, même s'il s'agit d'un ghetto et qu'ensuite c'est dans les camps, et notamment Auschwitz, qu'on ira tuer tout le monde. Mais c'était une zone de mise à mort, et ce livre raconte ça, raconte
on va voir comment
la vie, l'organisation d'une société dans une zone de mise à mort.
Je reviendrai vers vous sur la question littéraire dans un instant pour donner la parole d'abord à Sonia Deschamps.
Forcément, tout ce que vous racontez est absolument fascinant, et tous les épisodes au tribunal, forcément, c'est extrêmement prenant, et ça, voilà, évidemment, tout ce que vous dites, encore une fois, on le ressent dans le livre, et c'est extrêmement puissant. Là où, pour moi, il y a eu un souci, c'est que oui, j'ai réussi à imaginer la salle où se déroule le procès, j'ai réussi à imaginer le local à balai par lequel il faut passer pour accéder dans cette salle, même cette porte verte, que Marek, le fils adoptif du coup de Rumkowski qui assiste au procès, hésite à ouvrir. Mais parfois, je savais juste plus du tout où j'étais, entre ce qui se passe dans le tribunal avec le personnage central qui est Regina, la femme de Rumkowski, qui pourtant ne s'exprime jamais, mais elle est vraiment au cœur du procès, et puis les pauses dans le procès avec cet intermède théâtral notamment, et puis à côté de ça, la narration justement, la première personne, l'écrivain qui part explorer Lodz avec Dora, une fille du ghetto, narrateur qui dit lui-même qu'il est devenu fou, il est aussi parfois de questions de rêve dans le rêve, ce qui fait que je trouve que malgré tout, il y a eu pas mal de moments où je me disais, mais où est-ce que je suis? Et où, presque, de quitter le tribunal, je me disais, mais pourquoi? Pourquoi on me retire ces épisodes? Pourquoi est-ce qu'on ne continue pas, justement, à faire défiler un petit peu les témoins avec ces invités?
Et parce que ces scènes où, par exemple, il se promène avec une jeune juive morte du ghetto sont magnifiques et simples, d'une simplicité absolue.
Mais c'est la façon dont elles sont amenées.
Parce qu'elles apportent énormément, elles apportent le sens de cette vie dont on raconte la destruction.
Mais c'est pas sur le sens même de ces scènes que je revenais, c'était plus dans leur articulation et le moment où elles arrivaient qui faisait que moi, souvent, j'avais le sentiment d'être perdue, mais en même temps, j'ai envie de dire, ça m'a à la fois dérangée, en même temps, c'est aussi ce qui m'a plu dans ce livre, d'être déstabilisée. Il y a de la folie, il y a de la poésie aussi dans ce texte, et tout semble irréel. On parlait de fantômes qui assistent au procès, tout semble irréel, et pourtant, ce qui est raconté est vrai. C'est là où, effectivement, c'est extrêmement intéressant, et où, mais je pense que c'est un livre où il faut s'accrocher au début. Moi, j'ai vraiment dû m'accrocher et me dire, bon, ne lâche pas et continue, et ça va s'éclairer et tu vas comprendre où est-ce qu'il veut venir et comment tout cela s'articule.
Je suis désolé, mais je comprends assez mal qu'on ait du mal à lire ce livre, mais le trouve extrêmement simple.
Moi, je partage le point de vue de Sonia, donc on est déjà au moins deux. Être mal compris par vous. Grégoire Leménager.
Non, j'ai peur qu'on soit trois, parce qu'évidemment que le cadre Rumkowski, sur lequel il y a eu déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de littérature, est extrêmement intéressant. pourquoi il est intéressant, parce que il est impossible de le résoudre, parce que il est impossible d'avoir une approche manichéenne de ce cas. Enfin, vous l'avez très bien résumé, et les enjeux sont très bien posés dans les scènes de procès, en particulier avec les 15 pages où il y a Hannah Arendt. Si vraiment on voulait être méchant, on dirait que il y a un peu un côté théâtre de Jean-Claude Briseville, quoi. Mais c'est beaucoup mieux fait que ça.
On peut pas dire ça de l'ensemble.
Je parle des scènes de procès justement qui font réapparaître des personnages historiques comme ça. Il y a quelque chose de très artificiel, de très factice, mais ça fonctionne très bien. Enfin, et c'est très bien comme ça. Je trouve ça très bien comme ça. Et en particulier, les scènes avec Hannah Arendt sont vraiment vraiment formidables et posent très bien les enjeux. Est-ce que ça valait le coup de prolonger la vie de quelques mois de ces pauvres gens ou pas. Et Hannah Arendt a l'air de dire que quelques mois, c'est négligeable et qu'il aurait mieux valu ne pas pactiser avec les nazis pour garder les mains propres. Une espèce de version très radicale de l'opposition entre l'éthique de responsabilité et l'éthique de conviction. C'est très intéressant philosophiquement, moralement, historiquement, etc. Après, c'est vrai que ce livre, c'est très compliqué de le lire parce qu'il n'y a pas du tout que les scènes de procès, parce que l'écrivain lui-même, on comprend pas qui c'est, on comprend pas pourquoi il y a des passages de son journal, on comprend pas qui, on comprend que quelqu'un lui passe la commande pour écrire un livre, mais il y a un côté très très baroque.
C'est le fils du directeur nazi du ghetto qui vient lui commander ce livre.
Oui, et en même temps, l'écrivain lui dit je ne crois pas que tu sois que tu sois la personne que tu dis que tu es, etc. Donc, bon, c'est...
On a connu complexité plus grande que...
Là, je ne suis pas sûr que le degré de poésie de ce livre-là fasse avaler tous ces glissements narratifs, tous ces changements énonciatifs. Et voilà. S'ajoute aussi le fait qu'il joue avec une histoire que lui connaît extrêmement bien, avec beaucoup de noms de personnages historiques. D'ailleurs, il y a un petit système d'appel de notes pour nous aider, nous, pauvres lecteurs français, qui ne connaissons pas par cœur l'histoire du ghetto de Lodz et de tous ces acteurs. Tout ça crée quand même, donne à ce livre une densité très importante et très déroutante et lui il prend
un peu de complexité, enfin une richesse de profondeur.
Oui, mais alors on a le droit de trouver ça compliqué si vous dites qu'il est complexe. C'est pas lui faire injure de dire qu'il n'est pas simple à lire,
c'est dommage parce que ça éloigne les lecteurs.
On est là pour dire notre vérité comme vous le disiez tout à l'heure. Non, mais donc ma vérité de lecteur, c'est qu'effectivement, c'est une lecture. La complexité n'est pas toujours la meilleure compagne du lecteur, et surtout dans une histoire aussi complexe que celle-ci.
Pardonnez-moi, opposons vérité à vérité subjective. Sincèrement, je n'arrive pas bien à comprendre en quoi c'est compliqué. Vous êtes peut-être posé trop de questions. C'est un livre qui, évidemment, qu'on ne sait pas à chaque phrase exactement où l'on est, mais enfin, c'est pas la première fois qu'on a cette expérience dans un livre. Et il suffit de laisser filer. Tout vient très très simplement, très naturellement. Tout ce qu'il y a, toutes les expériences vers lesquelles il nous pousse sont là, sont données très simplement. Il suffit pour cela de s'abandonner, de ne pas se demander. Évidemment, si on lit en se demandant à chaque page où
on est. C'est pas ce qu'on a dit qu'on a.
Est-ce vraiment intéressant de savoir où on est, alors que tant de choses, quoi qu'il en soit de la complexité, et vous les avez perçues fort bien tous, tant de choses passent de toute façon extrêmement simplement. S'il est vrai que le livre exprime toute la complexité là sur notre, dans un autre sens de la question de Rumkowski, si vous le percevez, vous avez tout perçu. Vous n'avez rien raté, il n'y a rien de complexe. Là-dedans, il n'y a rien de trop compliqué, puisque vous avez tout sous la main. Par ailleurs, c'est un livre qui est ressorti très clairement à un genre qui touche quasiment au fantastique, à l'onirique en effet. Et simplement, c'est la meilleure forme possible, et là, il y a une grande intelligence de Barthes, c'est la meilleure forme possible pour essayer de dire la manière en réalité la plus réaliste, l'énormité absurde de la monstruosité qu'on raconte.
C'est une des formes possibles.
La
meilleure.
Ce livre-là. Enfin, je veux dire qu'il y a un accomplissement complet de la forme qui est exactement ce qu'il a voulu faire.
Ah oui, ça c'est certain.
Et je ne suis pas sûr qu'il aurait pu dire autant de choses sur l'ensemble des questions, et notamment ces scènes que je trouve absolument magnifiques de promenade dans Lodz avec cette jeune femme, disent peut-être le plus important de tout ça, disent les traces les plus infimes de la vie dont il s'agit, et de la manière là aussi la plus immédiate, la plus... voilà, on est simplement devant l'évidence à laquelle il fallait amener, mais à laquelle il fallait amener à travers tout ce qui a été la réalité historique de cela, c'est-à-dire une sorte de labyrinthe infini, mais... où l'on s'enfonce dans le mal de manière absolue et définitive.
Mais encore une fois, c'était pas lui faire un jeu. Quand je regarde Inland Empire de David Lynch, c'est pas le film le plus facile à regarder, et il me passionne, et je le trouve d'une infinie richesse.
Des millions de gens ont vu les films de Lynch, c'est
non,
pas
non, mais effectivement, on est tout à fait
pas
d'accord.
Pas celui-là, non.
Sauf qu'on n'utilise pas les mêmes mots quand vous dites il faut laisser filer. Moi, je dis il faut s'accrocher, mais finalement, on dit à peu près la même chose. Et je ne dis pas que les passages.
Il faut pas s'accrocher,
justement. Poétique et très beau, mais qu'effectivement, ces passages sont souvent reliés à des extraits de journal qui, moi, m'ont perdu et m'ont un petit peu justement fait décrocher, m'ont pas permis de totalement m'abandonner comme vous souhaiteriez qu'on s'abandonne dans ce livre.
Parce que vous avez votre coup de cœur après, donc on va pas faire que du Georges Lescaut toute l'émission.
Mais j'ai deux coups de cœur.
Encore mieux.
J'aimerais citer un livre pour compléter ce qu'on a dit sur ça, simplement.
Vous aurez moins de temps après. Grégoire Le Ménager.
Je reste sur ma position. Il faut accepter, oui, pour avoir droit à 20 pages très très spectaculaires et très intéressantes et sur la complexité de ce cas, il faut accepter d'avoir passé 20 pages où on n'a pas compris qui nous parlait, où ça se passait, quand ça se passait. Et c'est vrai que on peut s'abandonner et se dire c'est pas grave, c'est 20 pages, après tout, j'y comprends pas grand-chose et je m'imprègne juste d'une atmosphère. On peut aussi se dire que...
C'est pas du tout ce que je dis, vous faites bien de dire ça, mais
moi c'est ce que j'ai lu, je raconte juste ce que j'ai lu.
Je parle pas d'atmosphère, je parle de vérité.
Je raconte juste ce que j'ai lu.
Bon, Florent, vous avez
juste, je voulais dire, un autre sur livre. Ce sujet-là, ça m'a remis en mémoire un livre qui est fondamental, qui est pour le coup la même chose en récit historique, en témoignage écrit pendant la guerre même par un homme qui s'appelait Kalel Perechodnik, qui s'appelait Suis-je un meurtrier, ce livre, qui est la vie dans un ghetto de Lodz par quelqu'un qui faisait partie de la police juive. C'est-à-dire exactement la même situation. Il n'était pas chef, mais il était dans cette responsabilité-là. C'est un livre extraordinaire, un des plus puissants des livres sur cette question. Donc ça m'y a fait penser, je tenais à le signaler. C'est édité, je crois qu'il est toujours disponible, chez Liana Lévy.
La fabrique de papier Tumou, c'est de celui-là dont nous parlions ensemble, le livre d'André Schbart, publié chez Noir sur Blanc, dans une traduction d'Éric Vaux. C'est la suite du Georgesco Show. Vous nous écoutez, vous connaissez l'animal. Et c'est son coup de cœur ce soir.
Million d'amis, bonjour.
Journal intégral 1910-1940 de Julien Green chez Robert Laffont.
Oui, dans la collection bouquins. Simplement, j'ai en effet faire vite parce que je voulais faire une piqûre de rappel sur ce livre. Parce que c'est le grand événement d'histoire littéraire, de redécouverte d'un texte, puisque donc c'est un journal. Julien Green a publié toute sa vie, il est mort en 1998, maint homme de son journal intime, dont il a toujours dit qu'il était tronqué de beaucoup de passages. De fait, ce journal intégral-là comprend 60% de pages inédites, donc c'est une vraie révélation d'un texte qu'on connaissait partiellement. C'est un texte que je trouve absolument extraordinaire à tout point de vue. Et il est sorti très bizarrement. Il a été commenté très bizarrement, je trouve, dans la presse depuis l'automne. Parce que on a dit tellement de bêtises. J'ai lu des pages et des pages sur ce grand écrivain catholique avait une vie homosexuelle déchaînée. Quel hypocrite. Mais il l'avait toujours dit. J'ai lu partout, vraiment, très souvent. D'un côté, c'est assez amusant, d'ailleurs, des gens, disons, qui voulaient en profiter pour se payer des catholiques, et qui disaient, vous voyez bien, l'hypocrisie règne chez les cathos, le grand écrivain catholique, etc. De l'autre côté, des catholiques eux-mêmes, qui étaient absolument scandalisés, qui disaient, j'ai lu des papiers dans de grands journaux, où on disait, c'est un tort qui est fait à la littérature française que de publier ça, parce que soudain, on jette la grande âme dans les pissotières. Mais c'est Julien Green qui, toute sa vie, a répété que la plus grande part, lui il exagérait même, il disait 90% de mon journal est inédit et il ne s'agit que de mes coucheries. Il a toujours dit ça clairement n'importe quel lecteur de Julien Green le savait, il l'a dit dans des interviews à la télé, dans tous les journaux, tout le monde a toujours su ça, et là, aujourd'hui, en 2019, avec, et c'est pour moi l'effet d'une régression morale assez surprenante, tout le monde tout à coup est choqué. Et tout le monde dit, vous vous rendez compte le ce qu'il y avait là-dedans. Mais ce qu'il y avait là-dedans et ce qu'on savait qu'il y avait, moi j'étais au courant depuis longtemps, j'attendais l'apparition, ça fait 20 ans que j'attends l'apparition, je croyais même que je ne le verrais pas, parce qu'il semblait avoir voulu le mettre à l'écart plus longtemps. Pas du tout, en réalité c'était son fils adoptif qui est mort entre-temps, qui bloquait tout. Enfin, ceux qui ont repris les affaires en main ont pu bouger et sortir ça. C'est un grand événement, c'est un journal absolument extraordinaire, une traversée du siècle passionnante où justement il y a toute la vie, sous tous ses aspects. Il n'est pas que cet homosexuel, il n'est pas que ce catholique, il est tout cela à la fois. C'est le portrait d'un homme absolument fabuleux. On me fait des gestes, je m'interromps, mais vraiment, essayons de ne pas rater un tel événement avec des préjugés stupides comme on en a entendu absolument partout depuis fin août.
Ouais. Dans les coups de cœur, vous savez, c'est toujours 3 minutes pour là, vous, comme pour les autres, mon cher Florent Georgesco. Journal intégral 1919-1940, c'est chez Robert Laffont.
France Culture. La dispute. Arnaud Laporte.
Le dernier livre à notre sommaire, c'est « Andrew est plus beau que toi ». C'est un livre co-signé par Arnaud Catriné, « The Anonymous Project ». Il est publié chez Flammarion, c'est un collectif, « Anonymous Project », dont l'objectif est, je cite, « de préserver, collecter, numériser et cataloguer les négatifs couleurs et les diapositives des 50 dernières années ». J'espère qu'ils ont le temps. Ils ont donc soumis à l'écrivain Arnaud Catriné un ensemble de photos de famille en Californie des années 40 à 1980 et charge pour l'écrivain d'imaginer son récit en fonction de ces images. La première image, on y voit un couple, un homme, une femme sur une plage, ils sont en maillot de bain. L'homme a un genou à terre, la femme est perchée sur ses épaules, ils sont jeunes, ils sont beaux, ils sourient.
Ashley Cox a 19 ans. Elle rencontre Mason Tucker dans un bar de Santa Monica, un soir de juillet. Originaire d'une famille modeste de l'Indiana, le jeune homme vient tout juste d'arriver à Los Angeles avec son frère cadet. Il a traversé le pays d'est en ouest, certain que l'American Way of Life les attendait de ce côté-ci. Ashley l'amène sur la grande roue située sur le pier, et il profite qu'ils sont à 80 mètres au-dessus du sol pour l'embrasser. C'est la guerre. Le pays livre bataille dans le Pacifique, et s'apprête à surgir sur les côtes normandes pour libérer l'Europe. À peine leur histoire a-t-elle commencé, que le jeune Mason annonce à Ashley qu'il vient de s'engager dans l'US Navy. Stupeur. Il lui promet qu'il reviendra bien vite. Comment peut-il promettre ? Ashley est enceinte. Elle l'apprendra alors qu'il l'aura déjà embarqué. Et c'est un petit scandale chez les Cox. Elle adresse à Mason des lettres qu'il affirmera n'avoir jamais reçues. Quand mon frère naît, elle est toujours sans nouvelles de son géniteur. Mason est démobilisé fin 45. Lorsqu'il réapparaît, il apprend qu'il est père et accueille dans ses bras le petit Ryan, comme l'on cajolerait un filleul ou un lointain neveu. Les Cox enjoignent au couple de se marier dans les plus brefs délais. Bruce, le frère de Mason, est témoin. Monsieur et Madame Tucker cassent leur tirelire de fermier désargenté et font le déplacement. Pour les Cox, il y aurait beaucoup à redire sur cette union. Mais puisqu'il y a l'enfant...
Voilà, le tout début de Andrew est plus beau que toi, lui, ici, par David Dana. Premier tour de table sur ce livre, Sonia Deschamps.
Un jeu passionnant, un roman mélancolique comme on les aime, enfin, comme je les aime.
Grégoire Le Ménager.
Ben, vive le roman photo quand il est pratiqué comme ça.
Et Florent Georgesco.
Un projet passionnant, peut-être tellement passionnant que ça m'a laissé une légère déception. Peut-être que j'en attendais beaucoup plus, parce qu'en tout cas, ces photographies sont d'une richesse qui laisse imaginer des choses qui pourraient être plus extraordinaires, disons.
Alors, c'est vrai que c'est un projet. Il y a un autre livre qui a été fait, c'est Justine Lévy, sur le même principe, avec The Anonymous Project. Donc voilà, signalons cette initiative d'édition Flammarion. En plus, c'est un plutôt un bel objet, les reproductions photographiques. Ça se prête bien, ce grain-là, plus au tramage du papier. Sonia Deschamps, pour développer.
Alors, on a entendu le tout début de l'histoire avec donc cette rencontre.
Ça commence pas très bien quand même, hein.
Pas très très bien. D'ailleurs, je trouve
encore la guerre.
Et puis la photo que vous avez citée, je trouve que les deux premières photos donnent vraiment le ton. C'est-à-dire qu'on a cette première photo où on les voit donc sur la plage, tout souriant, heureux. On sent qu'ils se sont rencontrés il y a peu de temps. Ils sont vraiment heureux. Et puis la page suivante, on voit un salon tout beige avec un homme et une femme assis sur deux fauteuils séparés, qui ne se regardent pas, qui n'ont pas l'air d'être d'une gaieté folle. Et puis il y a cette phrase « Tout est allé vite, trop sans doute ». Et ça donne vraiment le ton. Et il y a plusieurs fois ce type de petites phrases qui font office presque de légende aux photos. Et je trouve que ça donne un rythme vraiment intéressant au livre. Mais pour revenir sur l'histoire, en fait, l'histoire de Andrew et Plus Beau que Toi, c'est l'histoire de deux frères, Ryan donc et Andrew Tucker, nés dans les années 40 à Los Angeles, qu'on suit donc de l'enfance jusqu'à la vraie vie donc, puisque la vraie vie donc, c'est le troisième chapitre après l'enfance et l'adolescence. Et Arnaud Catherine, en fait, a choisi dans ces photos que vous citiez du fonds The Anonymous Project, celles qui l'inspiraient. Alors, ce sont des photos intimes, domestiques. On retrouve des photos de fêtes d'anniversaire, de Noël, de vacances. Il y en a vraiment des fascinantes pour peu qu'on prenne le temps de s'arrêter dessus. Et c'est un point très important. C'est-à-dire que la sélection, je trouve, a vraiment été extrêmement bien faite. On n'est pas dans des photos de famille où l'amateurisme du photographe est une plaie. Il y a des photos vraiment extrêmement émouvantes, esthétiques. Il y a des très beaux cadrages aussi. C'est pas un livre qui se lit à toute vitesse. Je trouve, je pense vraiment que c'est un livre qu'il faut prendre le temps de lire. On peut s'arrêter, imaginer aussi son histoire à partir des éléments offerts par Arnaud Catherine, parce que vous imaginez bien que près de 30 ans en moins de 200 pages, ça laisse beaucoup de place pour le lecteur. Et oui, je trouve ça fascinant de reconstituer, de tresser une histoire à partir de photos de famille qui n'ont rien à voir entre elles et dont on ne sait rien. Tisser des liens imaginaires entre des inconnus, c'est déjà une geste assez poétique en soi, puisque finalement Arnaud Catherine a pioché des photos dans des familles qui n'avaient rien à voir, et il fallait malgré tout que lecteur, on ait l'impression de suivre Andrew et Ryan. Il fallait donner l'illusion que les deux petits garçons de la couverture sont les mêmes personnes que les deux adultes qu'on voit à la fin du livre, avec donc cette phrase « Andrew est plus beau que toi ». Et je trouve que ça donne très envie aussi de faire la même chose, de prendre des photos et de raconter, imaginer. J'avais aussi ressenti ça après la lecture des gens dans l'enveloppe d'Isabelle Monin. C'était pas exactement la même démarche. Toutes les photos appartenaient à la même famille. Mais je trouve que ce sont des livres qui vraiment sont stimulants, qui doucement nous font nous interroger aussi sur notre mémoire, notre rapport à la famille, au temps qui passe, et qui en même temps sont le témoin d'une époque. Donc oui, je trouve que c'est un livre extrêmement émouvant au-delà d'un projet tout à fait fascinant.
Grégoire Leménager, le roman photo comme ça, vous dites oui, c'est ça?
Oui, j'étais un peu inquiet au départ. Et non, j'ai trouvé ça très, vraiment.
Là, c'est excitant et inquiétant avant de l'ouvrir.
Ça va. J'ai trouvé
ça vraiment c'est formidable. Enfin, vous en parlez très bien. Je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Je trouve que l'interaction entre photo et texte fonctionne très bien. C'est-à-dire que le texte est très sobre, très retenu. Il traite quand même aussi de 30 ans d'histoire des États-Unis, mais de manière très délicate, sans appuyer sur les différents événements qui ont secoué l'histoire des États-Unis et donc du monde pendant ces 30 années-là. Donc le texte est très 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 beau, très retenu, et c'est vrai que l'interaction avec les photos crée vraiment un sentiment d'intimité qui est extrêmement fort. C'est-à-dire que le texte fait l'économie de beaucoup de descriptions, de beaucoup, et même beaucoup d'introspection sans doute, puisque les photos sont là pour prendre le relais et les deux s'éclairent réciproquement. Et effectivement, plusieurs fois, on se laisse prendre au piège du livre, c'est-à-dire que on finit par plus tellement se poser la question de savoir comment c'est fichu, et on finit par croire qu'on a affaire à une vraie famille et à une vraie histoire. Donc c'est quand même, de ce point de vue, la fiction fonctionne très bien, et naturellement, là où c'est intéressant, c'est qu'elle nous renvoie à nos propres questions sur la famille, sur la photo, sur la découverte de la sexualité, puisqu'il y en a un qui découvre qu'il aime les filles, et l'autre qui découvre qu'il préfère les garçons, enfin, Et voilà. Et il y a aussi de l'humour parce qu'il y a des façons assez drôles. Vous avez cité le début. Là, il y a aussi cette petite intervention du narrateur. Là, je sais plus lequel c'est, qui dit. Enfin, je nais en 1949. Dieu seul sait pourquoi. Mmh. Et il n'a pas besoin d'appuyer plus que ça. Donc c'est à la fois drôle, en même temps, ça renvoie à la tragédie de cette famille qui repose sur un mariage mal fichu dès le départ, à la bricolée à la hâte. Pour satisfaire les conventions sociales. Mmh. Et au passage, il y a une critique assez forte des conventions sociales qui ont pesé sur la vie des différents individus de cette famille tout au long de son histoire. Conventions sociales d'une époque, celles qui pèsent sur notre époque sont sans doute différentes, mais sans doute qu'elles pèsent aussi sur des gens. Je trouve que le livre fait ça très bien, en incarnant très, très, très bien tout ça dans quatre personnages principaux.
Florent Georgesco, sur ce « Andrew est plus beau que toi ».
Arnaud Catherine a une sorte a une élégance, un charme dans sa manière. Vous le disiez, Sonia, je crois, de faire passer le temps. Enfin, c'est une chose qui est très réussie dans le livre. On a un vrai sentiment du passage du temps, de la métamorphose tranquille, si je puis dire, des gens, des situations. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de charme et ça joue souvent très bien entre photos et texte. Enfin, je dis juste que j'ai une légère frustration parce que ce matériau est d'une telle richesse. La situation qu'il crée à partir des photos me paraît coller un peu trop au sentiment spontané qu'on a devant ces photos. On est un peu quand même devant le cliché du pavillon où forcément on s'ennuie, où forcément la vie est étouffante et où il va falloir se libérer. Je me demande si on peut pas imaginer d'autres choses à travers des photos aussi riches et peut-être qu'il y aurait plus de secrets et de surprises à trouver à travers ces photos. À force, je me disais que ce projet pourrait gagner à voir quelqu'un se lancer dans une enquête. Reprendre ces photos pour essayer, au contraire du chemin de la fiction, d'aller voir ce qu'il y avait vraiment dans la vie de ces gens. Je suis certain qu'on serait un tout petit peu plus surpris qu'on ne l'est par ce qu'on imagine Arnaud Catherine. Même s'il le fait très bien, il est comme un peu contenu par l'imagination et moi en tout cas j'avais peu à peu le sentiment qu'il y avait peut-être un tout petit peu plus de vitalité potentielle dans les photos elles-mêmes et qu'il faudrait aller voir, est-ce que vraiment les dames, parce qu'il y a quelque chose qui est parfaitement juste sociologiquement, historiquement, sur la femme au foyer dans l'Amérique des années 50. Mais enfin, est-ce que chaque personnage sur une photo est vraiment le représentant d'une donnée statistique ? Je ne suis pas sûr. Et s'apercevoir de la vie réelle de cette dame sur cette photo, qui faisait des trucs peut-être un tout petit peu plus amusants dans sa vie qu'on l'imagine, ça pourrait être intéressant aussi. Donc voilà, je suis un peu partagé. J'aimerais vraiment que ce projet se continue, que d'autres voix soient développées, et y compris, encore une fois, de la voix de l'enquête. Ouais. Moi, j'aimerais bien qu'on reprenne les mêmes, par exemple.
Ah ouais, non, mais
parce qu'en plus, il y a beaucoup de photos qui sont très belles, au point d'ailleurs que parfois, je me demande si
c'est vraiment
des photos
d'anonymes. Où est-ce qu'on a trouvé ça ?
Il y a un vrai œil de photographe, parfois. En tout cas, reprendre ces photos serait passionnant.
Mais des fois, il en joue aussi. Un exemple comme ça, pris presque au hasard, mais c'est sur une photo d'un homme, costume cravate, une bonne soixantaine, à son bureau, il y a un paperboard derrière, bon, c'est assez austère, comme ça. Et le texte, c'est « Il a l'air ni aimable, ni futé, ni honnête, ni honnête, c'est pourtant lui qui accepte de m'engager en 66 au Los Angeles Free Press, un hebdomadaire de gauche indépendant. » Là, c'est vraiment un détournement absolu.
Oui.
Il montre quand même qu'il est toujours en train de jouer.
Absolument.
Et c'est très bien dosé ces choses-là, comme les dernières
photos. Peut-être qu'il aurait pu jouer davantage comme ça. Ça, c'est en effet très amusant. Non, mais en effet, il y a d'autres choses qui auraient pu aller.
Le grand-père mort dans son fauteuil aussi. C'est très malin, la glosse qui... Enfin, non, moi, je trouve ça assez délicat.
Gâteau d'anniversaire cadré, où ça coupe la tête des parents.
Ouais. Il joue avec tous ces clichés-là, effectivement. Et après, à la fin.
Il joue moins qu'il ne les incarne.
À la fin,
mais il en tire un récit intéressant.
Mais c'est le premier avec Justine Lévy à tenter ce format-là. Donc, ils essuient aussi des plâtres, mais.
On aimerait bien lire une autre histoire avec exactement les mêmes photos dans le même ordre.
Oui, sur un livre, il y en a déjà deux. Il y a l'enquête que mènera Florent Georgesco.
On a lancé des projets.
Le livre de Grégoire Le Ménager avec les mêmes photos. Sonia et moi, nous, on battra les cartes et on fera encore un autre livre. Bon, c'est un livre qui donne envie d'autres livres. C'est pas mal aussi. Andrew est plus beau que toi, d'Arnaud Catherine et The Anonymous Project. Donc, nouvelle collection, on l'espère, qui s'enrichira de mois en mois. On a envie d'en lire d'autres. C'est publié chez Flammarion. Avant de conclure cette émission, un autre jeu, le jeu de la dispute avec David Dana, qui nous rejoint après qu'on ait entendu lire tout à l'heure. Ce soir, vous nous rappelez d'abord la question d'hier, non pas d'hier, de mardi, parce que hier c'était une émission un peu spéciale, il n'y avait pas de jeu. Mardi, la question était...
Quel livre d'Herman Melville, Jean Genet, a-t-il traduit ? La réponse est Moby Dick.
Ce soir, des invitations à gagner pour l'exposition Christian Boltanski, Faire son temps, exposition à voir jusqu'au 16 mars 2020 au Centre Pompidou, exposition à voir, tout court, nous en parlerons bientôt dans la dispute. Quelle est la question ?
Quel est le nom de la vidéo de Christian Boltanski dans laquelle un homme assis par terre, au visage masqué de bandelettes, tousse du sang ?
Alors, il n'y a pas changé de sexe, hein, toujours Christian Boltanski. Hein. Votre réponse, ainsi que vos coordonnées postales, à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Cette émission a été préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pinault et David Dana. Prise de son ce soir, Jean-Guilain Meige et réalisation Alexandre Fougeron. Rendez-vous demain à 19h pour une dispute cinéma. Je serai en compagnie de Lily Blum, Lucille Como et Julien Gester. Nous parlerons du film Les Misérables de Lajli, de Terminal Sud de Rabah Meurzaïmech, Les Enfants d'Isadora de Damien Manivelle. Il y aura un coup de cœur de Lily Blum pour Sympathie pour le Diable de Guillaume de Fontenay.